Amen.
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 Parce que Dieu même, il encourage. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Gloire à Dieu. Alors, c'est notre frère, Jean-Pierre Vandex. J'ai plus besoin de le présenter, puisque bon, plusieurs fois vu quand même, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, il peut faire quelques flashs. Mais en tout cas, depuis hier, c'est lui qui a encouragé la jeunesse du 8e, et puis aussi nos jeunes ici, dans l'autre salle là-bas. Ils étaient nombreux, ils ont terminé par une collation. C'était vraiment émouvant. Et là, pour voir les jeunes de différentes églises se rencontrer. Gloire à Dieu. Voilà, donc, c'est lui qui a la responsabilité ce matin encore de pouvoir nous exhorter dans la parole du Seigneur. Donc, je demande au frère Georges, voilà, s'il peut être notre propre parole devant le Seigneur pour confier notre frère au Seigneur pour la parole de Dieu. On se joint à sa prière, Seigneur.
Je fermais notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Seigneur, tu nous conduis. Toi-même, tu es le maître de toute œuvre. Ta parole est digne d'être louée, nous la partageons, elle est notre unité quotidienne et nous fortifions. Seigneur, nous te remercions d'avoir amené ton serviteur en ce lieu. Que tu les bénisses, la parole qui vient de sa bouche ne viendra pas de lui, mais de toi.
Amen.
Quand le Père Israël a dit, parle, Seigneur, nous t'écoutons, ton peuple t'écoute. Tu l'auras instruit. Seigneur, c'est l'instrument que tu vas utiliser maintenant pour la transmission de ton œuvre, de ta parole. Seigneur, nous te disons aussi, parle, nous t'écoutons et bénis ton serviteur par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Si tu peux arranger un micro pour lui, s'il te plaît.
Allô. Voilà, bonjour à tous, à toutes. Nous sommes ce matin rassemblés dans ce lieu pour adorer notre Seigneur. Quelle grâce de savoir que partout où nous partons, nous avons la famille de Dieu.
Amen.
Voilà, donc moi je m'appelle Jean-Pierre Vandex. Donc j'arrive de la région de Montpellier pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais ce matin je me sens dans la famille du Seigneur parce que c'est ici même que j'ai appris à grandir auprès du frère Cramaux. Voilà, c'est mon père spirituel, voilà, pour tout vous dire. Donc, moi, je me suis donné au Seigneur sur Lyon. Et le premier qui a été là pour me booster, pour m'aider à avancer, eh bien, c'est le frère Cramaux. Et depuis, eh bien, il continue cette œuvre-là. Mais le Seigneur est grand et c'est lui-même qui parfait son œuvre en nous. Donc, ce matin, je peux bénir le Seigneur pour cette église qui est rassemblée, pour célébrer le Seigneur encore. Et nous avons vu, là, au travers de ces chants, que nous pouvons adorer le Seigneur. Et je bénis Dieu pour l'équipe de louanges. Merci Seigneur d'avoir permis que cette équipe soit dynamique pour adorer le Seigneur.
Amen.
Parce que le Seigneur se plaît dans la louange de ses enfants. Donc ça c'est vraiment une grâce de Dieu de savoir que dans cette maison de Dieu où l'on sert le Seigneur, eh bien ses enfants peuvent le célébrer, l'adorer, le louer de tout leur cœur. Quelle grâce!
Amen.
Quelle grâce.
Amen.
Merci Seigneur pour l'équipe de louanges. Fortifie-les Seigneur,
Amen.
Continue ton œuvre en eux. Voilà. Ce matin, je ne veux pas me tenir ici comme quelqu'un qui vient pour vous donner une leçon, parce que nous sommes tous sur le même plan. Donc, je vais vous transmettre déjà les salutations de l'œuvre dans laquelle moi je sers le Seigneur, qui se trouve dans la région de Montpellier, à Lunel-Vielle, ça s'appelle, c'est une petite ville à côté de Montpellier. Donc, le pasteur avec qui je sers m'a demandé de transmettre ses salutations à l'église. Mon épouse aussi, elle n'a pas pu venir avec moi parce qu'elle avait ce week-end un rassemblement pour les femmes. Elle est responsable de cette œuvre-là. Voilà, donc, tous vous saluent dans le nom du Seigneur. Nous formons une famille en Dieu.
Amen.
Voilà, recevez donc les salutations de cette église-là.
Amen.
Voilà. Donc, ce matin, je le disais, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, pour vous dire voilà ceci, voilà cela, parce que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous besoin d'apprendre. Voilà, donc je vous ai dit, le Seigneur se tient dans la louange de ses enfants. Et il aime la louange de ses enfants.
Amen.
Est-ce que vous le croyez ça?
Amen.
Amen. Amen. Amen. Alors ce matin, moi j'aimerais vous parler d'une parole qui se trouve dans la Bible. Mais avant ça, je ne sais pas, il y a un chant qui dit « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. » Est-ce que vous connaissez ce chant?
Amen.
Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La belle âme, ne me quitte plus. La belle Amen. Alors, vous voyez, on chante des chants. Mais est-ce que nous réalisons toutes les paroles des chants que nous chantons?
Amen.
Lorsque nous chantons, eh bien, nous devons réaliser les paroles des chants. Parce que ce sont les confessions que nous faisons devant notre Dieu. Pour ce que Dieu a fait dans notre vie, mais aussi pour ce que nous avons sur nos cœurs pour le Seigneur. Ce chant nous dit, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, eh bien, tout a changé. Alors, un jour, pendant mon culte personnel, j'étais en train de chanter ce chant. Et à un moment donné, je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, je commençais à réfléchir aux paroles. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans ma vie? Tout a vraiment changé comme tu le dis? Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Alors je me suis arrêté, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je peux réellement chanter ce chant en disant, oui, c'est vrai, tout a changé. Mais j'ai été bouleversé, interpellé, alors que j'avais l'habitude de chanter ce chant. Et je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux vraiment confesser que tout a changé de ma vie, quand je regarde ma vie? Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et ça m'a conduit dans cette parole, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce matin, je vous citerai pas mal de passages pour éviter qu'on lise, d'accord? Mais il y a quelques paroles, on va lire ensemble. Alors simplement, une fois je vais vous citer simplement les paroles, donner les références pour ceux qui veulent les écrire. Alors je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tout a changé dans ma vie? Voilà. Parce que je vais être honnête devant toi, Seigneur. Je vais être honnête. Est-ce que tout a changé? Et je me suis dit, oui, bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Par exemple, la couleur de la peau ne peut pas changer. Hein? La couleur de la peau ne peut pas changer. Et même dans Jérémie au chapitre 13, il nous a dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? C'est pas possible. Donc la couleur de la peau ne change pas. D'accord? Ensuite, on regarde, est-ce que la taille a changé lorsque je suis devenu chrétien? Je n'ai pas pris un centimètre de plus ou de moins. D'accord? Est-ce que la couleur de mes yeux a changé?
Non plus.
Non plus. Et puis pour nos frères qui sont blancs, il y en a, moi je suis dans la région de Montpellier où il y a la plage, les gens ils vont à la plage, voilà, ils vont bronzer. D'accord? Mais est-ce que ça change pour autant leur peau? Quand ils retournent chez eux quelques mois après, eh bien ils retrouvent leur couleur. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. On ne peut pas discuter de ça. Mais quand le Seigneur dit, tout change, moi, je me mène devant le Seigneur et je dis, Seigneur, est-ce que vraiment tout a changé? Alors, ce matin, eh bien, on va méditer ensemble la parole du Seigneur. Alors, il y a des choses qui changent. Donc, pour voir un petit peu le plan, on va voir ce qui change dans notre vie lorsqu'on appartient au Seigneur. Et puis, les domaines dans lesquels, certains domaines dans lesquels, eh bien, on devrait avoir des changements, mais dans lequel on a du mal. D'accord? Donc premièrement, ce que le Seigneur fait pour changer réellement, ce qu'il a changé réellement. Et puis deuxièmement, eh bien, des domaines dans lesquels on devrait avoir des changements, mais dans lesquels on peine encore. Et puis voir ensemble, eh bien, pourquoi ces changements n'ont pas lieu et qu'est-ce que le Seigneur peut nous apporter comme solution pour changer. Amen?
Amen.
Voilà. Donc, la première des choses, on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, ne cherche pas. Mais je vous lis ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il nous a dit, il nous a parlé de la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen.
Amen.
Donc, la première des choses qui change, que le Seigneur change, ça dit que le Seigneur, il a sa part. Et ce qu'il dit, il accomplit réellement. Le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il accomplit réellement. Donc, lui, il fait sa part. Voilà. Donc, la première des choses qui change, c'est notre filiation. Voilà. La première des choses qui change, c'est notre filiation. Parce que ce verset nous dit que, eh bien, à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc, lorsque, eh bien, j'accepte le Seigneur dans ma vie, je deviens un enfant de Dieu. Autrefois, eh bien, j'avais pour père le diable, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Il n'y a pas d'autre choix. Jésus l'a dit aux pharisiens. Voilà. Donc, autrefois, eh bien, j'avais pour père le diable et je vivais selon sa volonté. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, eh bien, j'ai changé de père. Amen. Je suis devenu enfant de Dieu. Et vous êtes devenu enfant de Dieu si vous avez choisi de marcher avec le Seigneur. Donc ça, c'est le changement que le Seigneur opère dans notre vie. Donc nous devenons, eh bien, des nouvelles créatures. Voilà. Parce que, eh bien, j'ai changé de père. Gloire à Dieu. Je ne suis plus enfant du diable, mais je suis maintenant enfant de Dieu. Est-ce que c'est ce que le Seigneur va dire à Nicodème? Il faut que tu naisses de nouveau. Voilà. Il faut naître de nouveau. Donc le Seigneur, eh bien, il opère ce changement. Il n'y a pas de discussion là-dessus, on le croit. Voilà, c'est la parole de Dieu qui le dit, et l'Esprit atteste à notre cœur que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous le voyons dans notre vie. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça?
Amen.
Vous êtes devenu enfant de Dieu?
Amen.
Amen. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Donc si je suis devenu enfant de Dieu, Dieu qui est le roi universel, ça veut dire que je suis devenu un prince, une princesse pour les femmes. Voilà, vous êtes des princes et des princesses.
Amen.
Quel privilège.
Amen.
Quel privilège. Voilà, amen.
Amen.
Voilà. Donc voilà la première chose que le Seigneur opère dans notre vie. Ensuite, eh bien, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché et du diable et d'autres choses encore. Parce que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. L'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Alors, qu'est-ce qui a triomphé de moi? Qu'est-ce qui peut triompher des hommes? Il y a plein de choses qui peuvent triompher de nous. Voilà. Des choses pour lesquelles, eh bien, on devient des fanatiques. Voilà. Eh bien, ces choses triomphent de nous. Mais le Seigneur nous délivre de tout cela.
Amen.
Amen. Donc, dans Jean, au chapitre 8, au verset 36, il nous a dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Donc, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire que le Fils nous a franchis. Donc, nous sommes maintenant libres à l'égard de ces choses qui autrefois avaient triomphé de nous. Nous sommes libérés, non pas parce que nous avons la volonté, mais parce que Jésus est venu faire cette œuvre dans notre vie.
Amen.
Voilà. Et la parole de Dieu nous dit également dans Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. »
Amen.
Donc, la vérité, c'est quoi ou c'est qui? C'est Jésus lui-même la vérité. C'est Jésus la vérité. Donc, c'est lui qui nous a franchis et qui nous délivre de l'esclavage dans lequel nous étions plongés autrefois. Parce qu'autrefois, nous n'avions pas la volonté. On voulait s'en sortir, mais c'était impossible. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, eh bien, il m'a délivré de toutes ces choses. Amen.
Amen.
Amen. Alors, ensuite, nous recevons un désir nouveau, le désir spirituel, eh bien, de marcher selon la volonté de Dieu. Voilà. Parce que le Seigneur met dans notre cœur que nous sommes ses enfants, donc, eh bien, nous avons ce désir-là, eh bien, de marcher selon la volonté de Dieu. Donc, maintenant, nous ne marchons plus selon le train de ce monde, selon la volonté du monde, mais nous marchons selon la volonté de Dieu.
Amen.
La volonté de Dieu nous pousse, eh bien, à lui obéir, à faire sa volonté, à marcher dans ce qu'il veut. Est-ce que c'est vrai ça dans votre vie? C'est ce que le Seigneur vient faire par son esprit en nous. Ensuite, nous passons des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on se cachait pour faire des choses. On se cachait dans les ténèbres pour faire des choses. Mais maintenant, nous vivons à la lumière. Et d'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit que nous sommes la lumière du monde.
Amen.
Nous sommes devenus la lumière du monde.
Amen.
La lumière, ça sert à quoi faire? À éclairer.
Voilà.
Donc nous sommes là, eh bien, comme le phare dans ce monde, comme un phare pour éclairer les hommes, pour les amener vers Jésus.
Amen.
C'est notre mission, ça. Donc
Amen.
Partout où nous sommes, que ce soit dans notre lieu de travail ou à l'école, partout où nous allons, nous devons être cette lumière-là de Dieu.
Amen.
Là, ce qu'il fait dans notre vie. Voilà, nous devenons la lumière. Ensuite, nous devenons tous des sacrificateurs. Nous devenons tous une nation sainte, un peuple acquis à la gloire de Dieu. Autrefois, nous n'étions pas du peuple de Dieu. La parole de Dieu dit que nous n'appartenions pas au peuple de Dieu. Il y avait un peuple qui était élu, le peuple d'Israël. C'était un privilège. Est-ce que vous réalisez que maintenant, vous êtes devenu le peuple de Dieu?
Amen.
Vous êtes devenu le peuple de Dieu. Amen.
Amen.
Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis devenu le peuple de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Peut-être qu'on ne le réalise pas toujours, mais nous appartenons maintenant au peuple de Dieu.
Amen.
Voilà ce que le Seigneur fait dans une vie. Voilà tous ces privilèges devenant des princes et des princesses lorsque nous appartenons au Seigneur. Voilà. Autrefois, nous appartenions au monde. Nous agissions selon la volonté du monde. Mais lorsque le Seigneur vient dans notre vie, eh bien, tout change dans ce domaine-là. Donc le Seigneur, il fait sa part. Ce qu'il doit faire, il accomplit réellement. C'est ce que je disais hier aux jeunes. Eh bien, on construit notre vie sur Jésus qui est le fondement. Jésus est le fondement sur lequel nous bâtissons notre vie. Lui ne change pas. Quel que soit ce que nous sommes, lui ne change pas. Voilà. Donc le Seigneur, lui, fait sa part. Maintenant, eh bien, la suite nous appartient. C'est à nous de faire la suite. Alors, maintenant, on va voir des domaines dans lesquels le Seigneur nous donne la victoire, mais des domaines dans lesquels nous avons, nous, du mal à réellement voir ce changement. Et ça, ce sont des domaines concrets de la vie de tous les jours. Parce que il faut aller dans la réalité des choses. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie, dans le domaine réel? Et qu'est-ce qui n'a pas changé? Voilà. Donc, il ne faut pas se limiter simplement à une théorie, mais voir concrètement dans ma vie, qu'est-ce qui a vraiment changé. Donc, on va voir quelques domaines, quelques aspects de ce qui devrait changer lorsque le Seigneur devient, eh bien, mon Père. Mais dans ces domaines-là, j'ai quelquefois du mal. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, parce que moi-même, eh bien, je me rends compte que j'ai été interpellé par ce chant qui me dit que tout a changé. Mais je me suis demandé, Seigneur, est-ce que vraiment tout a changé dans ma vie? Est-ce que je vis cette vie nouvelle-là que tu m'as réelle, que tu m'as donnée? Est-ce que je vis cette vie? Seigneur, est-ce que je vis cette vie? Et je me suis dit, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai besoin de toi encore, de ta grâce, pour m'aider à vivre cette vie. Alors donc, on va voir des exemples de la vie de tous les jours. Alors, premièrement, est-ce que mon caractère a réellement changé? Est-ce que mon caractère a vraiment changé? Je ne parle pas de la personnalité, d'accord? On a une personnalité que Dieu ne va pas bouleverser. Voilà. Il ne va pas changer notre personnalité. Il nous a créé, c'est lui qui nous a créés tels que nous sommes. Mais notre caractère doit changer lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et vous connaissez tous les œuvres de la chair. Vous connaissez tous les œuvres de la chair. Donc, il y a des choses qui sont dans notre vie que nous devons changer par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors, est-ce que mon caractère a vraiment changé? Des fois, je suis étonné moi-même de voir ma réaction devant certaines situations de la vie. Lorsque je suis chatouillé par quelqu'un, lorsque quelqu'un vient me tortiller un petit peu, je vois que, eh bien, je n'arrive pas à avoir toujours la bonne réaction. Je n'arrive pas à avoir toujours la bonne réaction. Par exemple, est-ce que j'ai renoncé aux excès de colère qui empoisonnent ma vie? Premier domaine, donc. Est-ce que j'ai renoncé aux excès de colère? Parce que des fois, on réagit au quart de tour. On part tout de suite. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait mal, on n'arrive pas à se retenir et on réagit avec violence. Est-ce que cela a été changé dans ma vie? Devant le Seigneur. Est-ce que ça a changé vraiment dans ma vie? Donc je dis, Seigneur, il y a encore des choses à changer. Viens à mon secours. Parce que tout seul, je n'y arrive pas. Voilà. Ensuite, pour ceux qui conduisent des voitures, lorsqu'on ne conduit pas, on ne se rend pas compte. Mais lorsque vous conduisez, des fois quelqu'un vous fait un faux tour, passe devant, vous fait que de poisson. Oh là là. Et là, on réagit au carrefour. Et cela, on a envie de dire des choses. On se dit, ben s'il pouvait s'arrêter. Voilà. On réagit. Ah, je n'ai plus de micro. Voilà. Je n'ai plus de micro. Ah si, ça va. Ok. Et là, on réagit au carrefour, ça part tout de suite. Ah, Seigneur, garde-moi d'avoir de mauvaises réactions. On a envie de me piquer. Mais, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc ça, vraiment, on a du mal. Moi, je reconnais que j'ai du mal. Hein? Quelqu'un se reconnaît aussi, peut-être? J'ai du mal. Mais Seigneur, viens à mon secours. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein? Je pense qu'il faut être honnête devant le Seigneur si on veut que les choses changent dans notre vie. Il faut les confesser, ces péchés-là. Voilà. Le Seigneur nous dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, eh bien, il est menteur, celui-là. Voilà. Mais si nous confessons nos péchés, eh bien, il est juste et bon pour nous les pardonner. Voilà. Donc, il faut être honnête devant le Seigneur. Voilà. Voilà. Donc, je suis encore esclave de quelque chose, de cette colère-là. Voilà. Est-ce que lorsque mon droit est bafoué, lorsque je suis dans mon droit et quelqu'un bafoue ce droit-là, est-ce que je suis capable, eh bien, d'avoir la réaction de Jésus? Voilà. Paul pourra dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller plutôt? Voilà. Donc, à l'égard même des frères et des sœurs, lorsque quelqu'un nous dit des choses dans lesquelles nous sentons que nous sommes dans notre droit, on reconnaît qu'on est dans notre droit, et c'est vrai, mais on n'arrive pas à se contrôler. Voilà. On dit, mais c'est vrai, je suis dans mes droits, alors comment se fait-il que, eh bien, il bafoue mes droits? Et là, on n'arrive pas à se contrôler. Mais Paul nous dira, eh bien, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voilà. Donc, il y a encore du travail à faire en moi. Beaucoup de choses à faire en moi. Donc, Seigneur, viens à mon secours et aide-moi. Est-ce que, comme le Seigneur le dit, si quelqu'un te donne une gifle, tends-lui l'autre joue. Est-ce que j'arrive à lui faire ça? Lorsque quelqu'un te met une gifle, tends l'autre joue. Eh oui. Nous savons que la parole dit, il y a beaucoup de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Et parfois, on a plutôt envie de donner aussi. On a plutôt envie de donner que de recevoir. Mais le Seigneur nous dit, eh bien, si quelqu'un te donne une gifle l'autre joue, eh bien, tends l'autre joue. Est-ce que je suis capable d'appliquer cette parole dans ma vie? Est-ce que je suis capable, Seigneur, viens à mon secours. On a plutôt tendance à réagir. Lorsque quelqu'un nous dit un mot, on a plutôt tendance à dire deux ou trois mots. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas si facile que ça. Alors je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tout a changé vraiment dans ma vie? Eh oui, et je suis obligé de reconnaître que non, Seigneur, il y a des choses qui restent encore à changer en moi. Alors, donc, viens à mon secours, Seigneur. Voilà. Viens à mon secours. Est-ce que je suis capable de pardonner parfaitement sans garder rancune, comme le Seigneur le demande? Est-ce que je suis capable de pardonner sans rancune? Eh oui. Pourtant, le Seigneur dit que, eh bien, si nous ne pardonnons pas, eh bien, lui non plus ne nous pardonnera pas. Nous savons ces choses, mais est-ce qu'on le vit concrètement? Pour ceux qui sont dans la famille, les frères et sœurs, est-ce que vous vous pardonnez?
Amen.
Est-ce que vous arrivez à vous pardonner, ne pas garder rancune? Dans les couples, est-ce qu'on arrive à se pardonner?
Amen.
Eh oui, ne pas dormir sur sa colère. Est-ce qu'on arrive vraiment à le faire concrètement tous les jours? Dans l'église, est-ce qu'on arrive à se pardonner? Eh oui, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. On va lire un passage dans Jacques, au chapitre 3. Mmh. Jacques chapitre 3, on va lire à partir du verset 5. Alors, il nous a parlé de la langue. Vous allez voir. Jacques chapitre 3, verset 5. Alors, nous connaissons tous la langue. De même, la langue est un petit membre. Petit la langue. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout notre corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. C'est vrai, nous avons dompté les animaux. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. À qui parle-t-il, Jacques ? Il parle à des frères, à des sœurs. Il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des vignes, des figues ? De l'eau salée, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà. Donc il est parlé bien de la langue. Et Jacques ici, il parle à des chrétiens. Donc, il leur dit, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc si Jacques peut le dire aux chrétiens de son époque, je crois qu'il peut aussi nous le dire aujourd'hui. Et moi, je fais partie de ceux-là également. Je ne veux pas me dédouaner. Parce que la langue, il nous a dit, on a dompté tous les animaux. Il y a des hommes même qui ont dompté des lions. Qui arrivent dans les cirques, par exemple, à dompter des lions. Vous voyez ces animaux redoutables. Mais la langue, il pose la question, qui peut la dompter ? Qui peut la dompter, la langue ? Est-ce que j'ai cessé de critiquer mes frères ? Est-ce que j'ai cessé de dire du mal des uns et des autres ? Il nous a dit, la même bouche sort la bénédiction et la bénédiction. On bénit Dieu par la même bouche, et de la même bouche, eh bien, nous maudissons encore. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur vienne à notre secours. Est-ce que j'ai renoncé à l'orgueil ? Est-ce que j'ai renoncé à l'orgueil ? Vous savez que l'orgueil, c'est un péché redoutable. C'est le péché qui a fait chuter Satan. Et l'orgueil est dans ce monde. Est-ce que j'ai renoncé à l'orgueil ? Vous voyez que, eh bien, moi j'ai été interpellé par ce cantique, ce chant. Lorsque Jésus est devenu le maître de ma vie, eh bien, tout a changé. Et j'ai été obligé de reconnaître que, Seigneur, il y a encore du travail à faire en moi. Parce qu'il n'y a que lorsqu'on reconnaît que le Seigneur peut faire des choses en nous. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Oui, Seigneur, viens à mon secours. Je reconnais encore que, eh bien, malgré ces années de conversion, il y a encore des choses à changer en moi. Viens à mon secours, mon Dieu. Voilà. Maintenant, donc, la première chose, c'est mon caractère qui n'a pas complètement changé et que j'ai besoin d'amener chaque jour devant la croix de Jésus pour être crucifié à nouveau, chaque jour. La deuxième des choses, mes relations avec mon entourage. Dans mon couple, par exemple, est-ce que ma femme peut dire, ou mon mari, peut dire que, eh bien, il y a un changement complet et total en moi depuis que le Seigneur est venu dans ma vie. Est-ce que, eh bien, je suis devenu à l'image de Dieu ? Est-ce que j'ai adopté cette image de Dieu-là ? Dans mon couple, est-ce que je suis capable de faire des concessions ? Est-ce que je suis capable de servir et donc d'exiger qu'on me serve ? Eh oui, vous voyez que ce n'est pas toujours évident, hein, dans la vie concrète, dans la vie pratique. Est-ce que mon épouse peut dire que vraiment je suis devenu un être nouveau, que tout a vraiment changé complètement? Parce que moi, j'ai connu le Seigneur après quelques années de mariage. Donc, avant d'être converti, eh bien, je me suis marié avec mon épouse. Alors, je n'ai pas eu ce privilège d'être né dans une famille chrétienne. Donc, mon épouse et moi, on a connu le Seigneur par la grâce de Dieu le même jour. Et le Seigneur nous a donné ce privilège de nous engager dans le ministère en même temps. Donc, on s'est connu avant que le Seigneur nous touche notre vie. Mais est-ce que je peux dire que depuis que le Seigneur m'a changé, eh bien, tout a vraiment changé. Vraiment, complètement changé. Mon épouse seule qui peut le dire. Elle n'est pas là ce matin.
Amen.
Je peux me cacher derrière ça parce qu'elle n'est pas là. Mais est-ce que réellement tout a changé?
Amen.
Eh oui. Seigneur, viens à mon secours. Allez, viens à mon secours. Voilà. Est-ce que vis-à-vis de mes enfants, tout a changé? Est-ce que les enfants par rapport aux parents, tout a changé? Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, est-ce que vous êtes réconcilié avec les parents peut-être qui vous ont fait du mal? Parce que des fois, dans les familles, il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles qui arrivent. Mais est-ce que lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez réussi à pardonner ce que vos parents vous ont fait? Et oui, des fois c'est douloureux. Il y a des situations douloureuses dans la vie. Mais il n'y a que le Seigneur pour pouvoir changer tout cela. Voilà. Donc ça, c'est l'amour de Dieu qui peut nous aider à changer. Parce que l'amour triomphe du mal. Et le Seigneur est l'amour. Donc lorsqu'il arrive dans nos vies, eh bien, il nous communique cet amour-là. Il nous permet, eh bien, de pardonner tout ce qui nous a été fait. Les souffrances que nous avons vécues. Voilà. Est-ce que, eh bien, tout a changé réellement dans ma vie? Est-ce que j'ai été capable de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal? Voilà. Donc, vous voyez que c'est important vraiment de se tourner vers le Seigneur. Voilà. Est-ce que dans mon travail, les collègues peuvent dire, cet homme-là, il est complètement différent parce que il proclame que Dieu est son sauveur, son Seigneur. Est-ce que sa vie a complètement changé?
Amen.
Est-ce que les collègues sont capables de dire, mais lui, il est différent?
Amen.
Est-ce qu'il est différent de moi? Parce que des fois, hein, les chrétiens, vous savez, on est quelqu'un dans la présence du Seigneur, dans la communauté du Seigneur, dans l'Église. Mais lorsqu'on est au travail, on n'arrive pas toujours à vivre cette vie-là. Est-ce qu'on est vraiment la lumière dans le monde?
Amen.
Est-ce qu'on est là pour apporter la lumière de Dieu? L'amour, communiquer l'amour de Dieu aux autres?
Amen.
Est-ce que cela a changé de ma vie? Est-ce que j'apporte la lumière? Est-ce que les gens voient au travers de ma vie concrète? Parce que le témoignage, ce n'est pas simplement ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on vit aussi. Le témoignage, Jésus a dit, soyez mes disciples. Donc avant de dire, je dois être. Vous voyez, c'est être d'abord. Je dois dire, mais je dois être aussi. Est-ce que ça a changé de ma vie lorsque Jésus est devenu mon sauveur?
Amen.
Eh oui. Est-ce que les collègues de travail peuvent dire, celui-là est complètement différent, il a quelque chose que moi je n'ai pas?
Amen.
C'est important ça. Dans la société dans laquelle je vis. Est-ce que mes voisins peuvent le dire également? Celui-là, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Eh oui, c'est important. Des fois, le diable vient, il met des choses entre les voisins. Lorsqu'on habite, par exemple, dans un immeuble, il y en a qui font du bruit et ils nous empêchent de dormir. Est-ce qu'on va avoir un témoignage qui puisse interpeller ces gens-là? Ou alors est-ce qu'on va faire du tapage aussi? Ou alors est-ce qu'on va réagir violemment? C'est important, ça, de donner un bon témoignage partout où nous sommes. Parce que c'est à nous de donner ce témoignage-là. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde, mais aussi nous sommes le sel de la terre. Donc c'est à nous d'apporter ce changement-là. Voilà. Est-ce que nos voisins peuvent dire, celui-là, il est différent. Parce que je lui ai fait subir des choses, mais il a réagi avec amour. Et ça m'a apporté quelque chose. Et oui, c'est important.
Voilà.
Donc, là, c'est vraiment important. Donc, premier domaine, est-ce que mon caractère a changé? Et puis, dans mes rapports avec mon entourage, est-ce qu'il y a eu des changements qui montrent aux autres que moi, je suis enfant de Dieu? Voilà. Sans que je parle, bien sûr, je dois annoncer, mais sans que je parle, est-ce que ma vie peut être un témoignage pour mon Père? Et c'est important. Seigneur, vraiment, viens à mon secours, afin que tout cela change. Voilà. Ensuite, dans la vie courante, vous savez, la vie ne fait pas de cadeaux, même quand on est enfant de Dieu. On est dans ce monde, et Jésus l'a dit à ses disciples, que lui-même, il a souffert, et que ses enfants vont souffrir également. Lorsque Jésus envoie ses enfants pour annoncer le message, pour être des témoins, je leur ai dit, vous allez souffrir également. Jésus ne nous trompe pas. Il ne dit pas, lorsqu'on devient enfant de Dieu, eh bien, maintenant tout est rose, on va avoir une vie facile. Mais la vie n'est pas facile. Et nous pouvons en témoigner tous les jours. Voilà. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, moi j'avais peur de quelque chose. Alors, si je vous demandais de deviner de quoi j'avais peur, je suis sûr que vous n'allez pas trouver. Essayez un peu. Dites-moi, à votre avis, de quoi j'avais peur, le plus peur. Même jusqu'à récemment, hein. Même en étant enfant de Dieu. Et pourtant, ça fait 28 ans que je connais le Seigneur. Mais jusqu'à récemment encore, eh bien, j'avais peur de quelque chose. Pourtant, le Seigneur n'est pas celui qui vient nous apporter la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Mais si je vous demandais de deviner, essayez de deviner. Dites-moi, à votre avis, de quoi j'avais peur?
L'avenir.
L'avenir?
Oui.
D'accord. Quoi d'autre?
La peur de l'autre.
La peur de l'autre. Ok.
Le serpent.
Le serpent? Ok. Alors, le serpent, j'avais pas peur du serpent. Je peux, par rapport au serpent, je peux donner un témoignage. Autrefois, moi, je suis en Côte d'Ivoire, d'accord? Et j'ai vécu en ville, mais souvent, mon père était planteur de café, de cacao. J'allais dans les plantations avec mes amis pendant les vacances. Mais étonnamment, je n'avais pas peur des serpents. Des fois, on voyait des serpents et les collègues, j'avais des amis qui avaient grandi dans le village, mais ils avaient peur des serpents. Et quand ils voyaient un serpent, ils s'enfuyaient. Et moi, je courais derrière le serpent pour aller le tuer. Mais c'est étonnant. Parce que j'allais avec eux pour nettoyer les plantations. Et quand ils voyaient un serpent, ils disaient, il y a un serpent. Et moi je disais, où est-ce qu'il est? Je cherchais, je courais derrière le serpent pour aller le tuer. Il disait, mais comment se fait-il que toi tu n'as pas peur du serpent? Je n'étais pas converti, hein. J'avais pas peur du serpent. Mais, vous allez voir, on va lire un passage ensemble dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset 31. On peut la trouver. Alors, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste, que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Alors, je n'ai pas lu le verset 30, mais si on lit le verset 30, alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne vous dites pas, que mangerons-nous demain? Voilà. Et le Seigneur dira, eh bien, toutes ces choses, eh bien, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Mais moi, je suis converti depuis longtemps, depuis 28 ans. Mais j'avais peur d'une chose, comme je l'ai dit, il a presque trouvé aidé, il a dit de l'avenir. Moi, j'avais peur de ma boîte aux lettres. C'est vrai, j'avais peur de la boîte aux lettres. Pourquoi? Parce que dans la boîte aux lettres, il y a beaucoup, tu vois, il y a les factures qui arrivent, il y a les impôts qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent. Et oui. Et le Seigneur dira, eh bien, ne vous inquiétez pas, eh bien, ce sont les païens qui ont peur de ces choses. Est-ce que je suis un païen? Mais non. Mais pourtant, j'avais encore peur de ces choses-là. J'avais encore peur. Je m'inquiétais l'avenir. Je me disais, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir telle facture? Comment est-ce que je vais payer telle facture? Et c'est pour qui arrive, etc. J'avais peur de la boîte aux lettres. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas normal. En étant enfant de Dieu, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Que tu pourvois. Et je le sais, tu vois. Je sais que tu as pourvu à telle bonne chose. Tu m'as donné un travail, tu m'as donné tout ce qu'il faut. Et pourtant, j'ai encore peur d'aller ouvrir ma boîte aux lettres. Mais c'est pas normal, ça, Seigneur. Comment se fait-il? Eh oui, on peut encore avoir peur de la boîte aux lettres. C'est pas grand-chose, une boîte aux lettres. Mais je passe devant la boîte aux lettres. Je ne veux même pas chercher le courrier. Ce sont les enfants qui vont prendre le courrier. C'est pas possible, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas possible. Comment se fait-il?
Je passe, je vois des enveloppes dedans parce que c'est transparent. Hein. Mais je ne vais pas ouvrir. Je vois qu'il y a des enveloppes dedans, mais je ne vais pas ouvrir cette boîte aux lettres. Ah Seigneur, comment se fait-il? Ah mon Dieu, vraiment pardonne-moi. Tu as dit ne vous inquiétez pas. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais comme je la donne. Voilà. Mais comment se fait-il que je n'allais pas à vivre ces choses? Seigneur, viens mon secours. Et libère-moi de cette peur. Parce que tu pourvois à toutes choses. Et oui, et le Seigneur est là. Et chaque jour, je crie à lui. Mais maintenant, je peux dire que le Seigneur m'a donné cette victoire.
Amen.
Voilà, il m'a donné la victoire parce que eh bien, j'apprends à compter sur lui jour après jour. Voilà. Il m'a libéré maintenant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas caché cela. Mais j'ai été honnête devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, voilà, il y a cette victoire qui me reste à prendre. Et j'ai donné cela au Seigneur. Et il m'a libéré de cela.
Amen.
Maintenant, je peux aller ouvrir la boîte aux lettres. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il a pourvu à toutes choses.
Amen.
Voilà. Il a pourvu à toutes choses. À lui la gloire.
Amen.
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 Amen. Et puis, nous sommes Africains. Nous sommes Africains, il faut le reconnaître. Et parfois, eh bien, nous avons des traditions qui demeurent en nous. Est-ce que, en devenant chrétien, j'ai renoncé à certaines traditions qui font du mal? Voilà. J'ai appris récemment, par des amis qui sont à Paris, c'est allé à Paris pour un mariage il y a à peu près un mois, ma nièce qui s'est mariée, et me racontait qu'à Paris, eh bien, les gens qui sont là-bas, ils passent leur temps, les week-ends, dans les funérailles, dans les veillées, etc. Il dit, mais on ne comprend pas. On est là, tout ce qu'on gagne, on le met dans les funérailles, dans les veillées, etc. Je dis, mais comment se fait-il? Il dit, ah oui, nous, à Paris, on vit ça. Bon, à Lyon aussi, je pense que vous ne vivez pas comme ça, mais à Paris, il paraît que c'est comme ça. Voilà. Et en étant africain, ce sont des traditions qui sont restées là, en nous. Pourtant, le Seigneur veut nous montrer le chemin. Et nous passons notre temps dans des traditions qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà. Oui, nous investissons encore dans ces traditions. Et on a de la famille en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on téléphone en Côte d'Ivoire, ils disent, oui, voilà, j'étais au funérail. Et voilà, je suis ruiné, je n'ai plus rien. Voilà, parce que j'étais là, j'ai donné ceci. Et même, on a été étonné de voir récemment que ma belle-sœur pour nous dire, j'ai donné même de l'argent, même pour vous qui êtes en France. Mais comment se fait-il? Elle donne l'argent pour elle, mais elle donne l'argent pour nous-mêmes qui sommes en France, dans les funérailles. Comment se fait-il? Des traditions qui nous ruinent. Eh oui. Donc voilà des choses auxquelles je dois renoncer. Notre Seigneur Jésus lui-même, il a été enseveli le même jour, parce qu'il est, il est passé par la mort. Heureusement qu'il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Mais parfois, en tant qu'Africain, eh bien, on laisse le mort là, pendant des jours, pendant des semaines, on cherche de l'argent, on cherche des choses. Voilà, voilà des traditions qui sont là pour nous ruiner et qui détruisent toutes choses. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, est-ce que tout cela a changé? Est-ce que j'ai appris à compter sur lui, à renoncer à ces traditions-là? Voilà. Il y a des traditions qui sont bonnes, mais tout ce qui n'est pas bon, eh bien, on doit y renoncer.
Amen.
Voilà. Amen.
Amen.
Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur a fait sa part en faisant de moi son enfant. Il a changé beaucoup de choses, tout ce qu'il devait changer. Mais dans ma propre vie, il y a des choses qui doivent encore changer. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi, eh bien, ces choses n'ont pas changé? Alors, on va prendre un exemple dans l'Ancien Testament. On va lire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. On n'est pas loin de la fin. Verset 9. Alors vous connaissez le roi Saül, le premier roi d'Israël. Donc il a été oint pour être roi d'Israël. Et Samuel qui l'a oint, eh bien, est le prophète de Dieu. Lui annoncer des choses extraordinaires qui devaient arriver dans sa vie. Alors, il nous est dit au verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Voilà. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tout ceci, pardon, s'accomplir le même jour. Alors, Saül, eh bien, il a reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque Samuel lui a fait l'onction, lorsqu'il a reçu l'onction de Dieu, eh bien, il a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, eh bien, il a reçu un autre cœur. Dieu lui donna, c'est Dieu qui lui a donné un autre cœur. Voilà, le même jour. Donc, eh bien, ça a été instantané. Lorsque, eh bien, il a reçu le Seigneur, l'onction du Seigneur. Donc, il a reçu un cœur nouveau. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait pour nous ?
Amen.
Il a fait la même chose pour nous.
Amen.
Il a donné un autre cœur. D'accord ? Alors, vous connaissez la suite de la vie de cet homme. On connaît la vie de Saül. On connaît la suite. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Est-ce qu'il est resté avec ce cœur nouveau ? On connaît la suite de sa vie. Il a désobéi au Seigneur. Il a marché dans la désobéissance. Et oui, il a marché dans la désobéissance. Alors, verset 10. Alors, je lis le verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Voilà. Donc on voit que, eh bien, il y a eu un changement en lui. Mais Saül, eh bien, n'a pas su demeurer dans ce changement-là. Il n'a pas su demeurer dans ce changement-là. Et malheureusement, sa vie n'est pas demeurée comme le Seigneur lui avait donné. Alors, si on lit le chapitre 15, on va lire chapitre 15, un verset du chapitre 15. Alors, Saül donc a désobéi, donc, à Dieu une nouvelle fois. Verset 13, si je commence à partir du verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Vous voyez, il dit qu'il a observé la parole de l'Éternel alors qu'il avait désobéi. Voilà. Donc des fois, eh bien, on ne se rend même pas compte, on ne se rend plus compte. Tellement on a pris l'habitude de désobéir qu'on ne se rend même plus compte qu'on désobéit. Voilà. Il dit, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Saül leur répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites, parce que le peuple les a épargnés, les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par terre. Samuel dit à Saül, arrêtez, et je déclarerai ce que la parole de l'Éternel dit. Voilà, donc on voit ici que, eh bien, il n'a pas réellement obéi. Alors on va maintenant verset 30. Alors. Verset 30. Alors, Samuel va lui dire que tu n'as pas obéi à la parole du Seigneur. Et au verset 30, il dit, Saül dit encore, j'ai péché. Il reconnaît maintenant, lorsque Samuel lui dit, il dit, j'ai péché. Donc il reconnaît qu'il a péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Alors, est-ce que vous voyez ce qui est dit ici ? Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Samuel et Saül ? Je me prosternerai devant qui ? L'Éternel ton Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, il n'est pas son Dieu, l'Éternel n'est pas son Dieu à lui. Il est le Dieu de qui ? Eh bien, de Samuel. Voilà. Donc, vous voyez ? Cet homme-là, qui a été choisi par Dieu, qui a reçu un cœur nouveau, qui a prophétisé même, donc qui a reçu l'onction de Dieu, eh bien, il n'a pas su demeurer, eh bien, dans ce que le Seigneur lui a donné. Il a désobéi. Et à la fin de sa vie, il pourra dire, eh bien, l'Éternel, ton Dieu. Je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Il ne dit pas devant l'Éternel, mon Dieu. Devant l'Éternel, ton Dieu. Voilà pourquoi, eh bien, changement n'a pas réellement lieu dans sa vie. Parce que, eh bien, il n'a pas donné toute la place à Dieu dans son cœur. Voilà. Il n'a pas donné toute la place à Dieu dans son cœur. Donc, Saül n'a pas, eh bien, été comme le Seigneur voulait. Il n'a pas entretenu sa vie spirituelle. Voilà, il a été enflé d'orgueil. Voilà, il est tombé dans l'orgueil et l'orgueil l'a poussé au péché. Voilà. Donc, il ne reconnaît même pas qu'il a péché. Donc, nous, ce matin, nous voulons reconnaître que, eh bien, Seigneur, eh bien, j'ai besoin encore de toi afin de pouvoir, eh bien, vaincre le mal. Voilà. Donc, on voit toutes ces choses. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Parce qu'on ne va pas se contenter de voir qu'il y a le péché, qu'on n'arrive pas à dominer, malgré tout. Mais est-ce qu'il y a une solution pour nous? Est-ce qu'il y a une solution pour moi?
Amen.
Est-ce qu'il y a une solution pour vous?
Amen.
Eh oui, y a-t-il une solution? Alors, ce chant nous dit, quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Et là, j'ai reconnu, j'ai dit, mais il y a un petit mot quand même, maître de ma vie. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Est-ce que Jésus est devenu le maître de ma vie? Pas simplement le sauveur, pas simplement celui qui pourvoit, mais est-ce qu'il est devenu le maître?
Amen.
Eh oui. Lorsque Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Jésus est-il ton maître?
Amen.
Jésus est-il mon maître? Est-ce que c'est lui qui contrôle ma vie? Est-ce que c'est lui qui contrôle ta vie?
Amen.
Eh oui. Posons-nous cette question. Il est important de s'arrêter. Est-il réellement le maître de ma vie?
Amen.
Eh oui. Si Jésus est le maître, oui, c'est vrai, tout peut changer.
Amen.
Si Jésus est le maître de ta vie, tout changera. Si Jésus est le maître de ma vie, tout peut changer. Amen. Parce qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit dans une vie. Tout peut changer. Mais à condition qu'il soit réellement le maître. Eh oui. Est-il réellement mon maître?
Amen.
Eh oui. Ou est-ce que j'ai un autre maître? Jésus pourra dire, nul ne peut servir deux maîtres. Alors ce matin, je me pose la question, qui est mon maître?
Jésus.
Qui est mon maître?
Jésus.
Est-ce que c'est Jésus? Si c'est lui, eh bien, tout peut changer. Si c'est Jésus, tout peut changer. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Eh oui. Donc, que Jésus ne soit pas simplement mon sauveur, que Jésus ne soit pas simplement celui qui pourvoit mes besoins lorsque je crie à lui, mais qu'il soit également mon maître.
Amen.
Et alors, eh bien, toutes choses changeront.
Amen.
Donc, revenons à Jésus, prosternons devant lui encore, il est capable de nous purifier.
Amen.
Voilà. Vous connaissez tous Paul. Il pourra dire à la fin de sa vie, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que, eh bien, il imitait Christ. Il avait la vie de Christ en lui. Il avait la vie de Christ en lui. Voilà. Soyez mes imitateurs. Est-ce que nous sommes des imitateurs de Dieu? Est-ce que nous devenons comme Jésus? Est-ce que j'ai en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai la vie de Jésus? Est-ce que je réagis comme Jésus? Lorsque tout le monde condamnait quelqu'un, la femme adultère a été condamnée par le peuple qui était sur le point de lapider cette femme. Est-ce que je peux reconnaître que moi, je suis capable de dire « Non, je te pardonne. » Jésus a pardonné. Pourtant, il était le maître de toutes choses. Cette femme méritait réellement la mort. La loi l'a condamnée. Les gens la condamnaient. Mais Jésus, eh bien, il a pu pardonner cette femme. Et lui dit « Va et ne recommence plus. » Voilà. Et cette femme, sa vie a été transformée. La Samaritaine de même, sa vie a été transformée parce que Jésus a été capable de changer sa vie. Voilà. Donc, Jésus, Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il a pu dire aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
Amen.
Est-ce que nous pouvons dire la même chose?
Amen.
Eh oui. Pourtant, ce même Paul disait plus loin et au début de sa vie, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et pourtant, à la fin de sa vie, il pouvait dire, eh bien, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé, eh bien, la foi. Maintenant, la couronne de vie, de justice m'est réservée. Voilà. Et Paul pourra dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parce qu'il y avait un combat en lui. Et ce combat-là, eh bien, nous aussi, nous y sommes confrontés chaque jour. C'est un combat. C'est pas simple, c'est pas une vie facile. Il y a un combat. contre la chair, contre notre nature humaine qui est encore en nous. Mais Dieu, Paul peut dire, mais c'est Jésus qui est libre du corps de cette mort. Voilà, donc nous avons une solution. C'est Jésus, c'est le sang de Jésus. Ce matin, eh bien, je vais me placer à nouveau dans le sang de Jésus parce que lui seul est capable de me délivrer. Voilà. Donc, oui, je peux m'abandonner entre ses mains. Alors, ça deviendra réellement une réalité dans ma vie. Lorsque Jésus est devenu le maître de ma vie, eh bien, tout a changé. Tout donc peut changer. Amen.
Amen.
Voilà. Donc, voilà ce que Jésus fait dans une vie. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, je peux chanter de tout cœur en disant oui. Lorsque Jésus est devenu le maître de ma vie, eh bien, tout a changé. Donc, il est important de mettre Jésus donc, comme ce maître-là. Voilà ce que je vous invite à faire. Donc, ce matin, s'il subsiste encore des domaines dans lesquels eh bien, je n'ai pas pris la victoire, mon Dieu est plus fort que tous ces domaines-là. Lui seul peut me délivrer de tout cela. Est-ce qu'on y croit, ça ?
Amen.
Jésus a la capacité de me délivrer de tout ce qui me tient esclave encore. Même s'il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas encore la victoire, eh bien ce matin, je veux tout apporter au Seigneur. Il est capable de m'en délivrer de toutes mes peurs, de tout ce que, eh bien, tout ce qui me ferait dans ma vie. Je peux tout apporter au Seigneur. Ce matin, il me libère. Donc, nous avons le triomphe en lui. Ce matin, donc, on va rester dans la tristesse en constatant qu'il y a des domaines dans lesquels nous n'avons pas encore remporté cette victoire. Jésus seul nous donne de triompher de ces choses. Amen.
Amen.
Jésus est victorieux, donc il me communique la victoire ce matin. Mais il y a une étape importante. Jésus doit être réellement le maître de ma vie.
Amen.
Jésus soit le maître de ma vie. Amen.
Amen.
Alléluia. Ce matin, je veux te bénir, mon Dieu, parce que tu m'as appris, Seigneur, les vraies valeurs. Tu es venu pour changer ma vie, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, me voiler la face en me disant, oui, c'est vrai, tout va bien, je suis devenu parfait. Non, Seigneur, il y a encore des domaines dans lesquels j'ai besoin de progresser. Il y a des domaines dans lesquels vraiment j'ai encore des craintes, des doutes, Seigneur. Mais toutes ces choses, je vais te les apporter ce matin, Seigneur, parce que je reconnais sincèrement dans mon cœur que je n'ai pas encore remporté toute la victoire. Mais quand ton nom, Seigneur, tout est possible. Alors je sais que, eh bien, ta mort, Seigneur, m'a libéré de tout ce qui peut, eh bien, être là encore comme un obstacle, Seigneur, de celui qui a vaincu, Seigneur. Et tu as dit que celui qui est en toi, il peut tout, Seigneur, parce que tu es tout, Seigneur. Tu as la capacité de remporter toutes les victoires. Ta mort, Seigneur, m'a acquis la victoire définitive, Seigneur. Alors ce matin, c'est vers toi que je me tourne, Seigneur, pour t'apporter, Seigneur, à tes pieds tout ce qui me tient encore, Seigneur, et tout ce qui, eh bien, me tient loin de toi, Seigneur. Je vais te les déposer à ton pied, Seigneur, parce que ton sang, Seigneur, me purifie, Seigneur. Sur la croix, Seigneur, tu as vaincu, Seigneur. Tu as triomphé de tous ses ennemis, Seigneur. Alors ce matin, je prends la victoire, Seigneur, en ton nom, Seigneur, mon Dieu. Merci pour mes frères, Seigneur, qui sont là, mes soeurs qui sont là, Seigneur. Tu vois encore nos combats, nos luttes quotidiennes, nos peurs, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Viens nous libérer, Seigneur, comme tu as fait pour moi, Seigneur. Comme tu l'as fait encore, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, en te disant merci, Seigneur, pour ta victoire, Seigneur, pour le triomphe, Seigneur. Maintenant, tu nous communiques, Seigneur, cela. Nous voulons nous prosterner à tes pieds, Seigneur, et te laisser nous conduire, Seigneur. Alors nous aurons toute la victoire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, parce que, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as dit, tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Alors ce matin, je te loue, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés sans solution, Seigneur. Mais tu nous as donné la victoire, Seigneur, complète. Alors bénis mes frères, bénis mes soeurs, Seigneur. Tu vois les combats dans lesquels ils peuvent être, Seigneur. Viens les libérer, Seigneur. Viens les délivrer, Seigneur. Viens les guérir, Seigneur, de tout ce qui est là, Seigneur, qui les empêche d'avancer, Seigneur. Viens te glorifier, Seigneur, et que nous puissions triompher complètement, Seigneur. À toi la gloire, la louange, Seigneur. Merci pour ce peuple rassemblé qui te célèbre ce matin. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. C'est vers toi que nous regardons ce matin et nous attendons encore ta grâce, Seigneur. Agis par ton esprit puissamment, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et triomphe de tout ce qui nous retient encore, Seigneur. Nous louons ton nom, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la victoire totale, Seigneur. Parce que Satan a été vaincu, Seigneur, comme nous avons chanté. Tu as triomphé de lui, Seigneur. Alors nous prenons la victoire en ton nom, Seigneur, notre Dieu. Et nous célébrons ton nom encore par la louange, Seigneur. Parce que même s'il y a des domaines dans lesquels nous sommes encore faibles, Seigneur, toi tu es victorieux. Et ton esprit nous donne la victoire ce matin encore. Nous louons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons, notre Dieu. À toi la gloire, notre Père. Amen.
Amen.
Alléluia, Jésus. Amen. Amen.
Amen. Merci, notre frère.
Quand Jésus prit le chemin de la croix, c'était pour moi, c'était pour toi, pour te délivrer du péché de l'enfer. Jésus mourut pour nous.
C'est ça, le message de l'évangile. La croix demeure un monument indélissable. Voilà.
toute la basilique ici-bas. J'avais le statut de Lénine, voilà, de Stanislas, etc.